Programme double, un podcast d'environ une heure dans lequel je vous présente deux œuvres cinématographiques ou télévisuelles ayant comme point commun une thématique, un acteur, un réalisateur ou faisant tout simplement partie de la même franchise. Le but de ce podcast est de vous informer sur l'historique de la production de ces œuvres tout en analysant leurs forces et leurs faiblesses, le tout enrobé d'une sauce très rétro placée dans une ambiance style cinépark. Né en 1935 à Montevideo, capitale et plus grande ville d'Uruguay, Narciso Ibáñez Serrador fut très tôt influencé par le monde du théâtre, son père étant lui-même metteur en scène et acteur, alors que sa mère était actrice. Passant son enfance en Amérique latine, il accompagnera continuellement ses parents lors de leurs tournées. Dès l'âge de 8 ans, le jeune homme fera ses débuts au cinéma, en doublant pour les pays de langue espagnole le personnage de Thumper du film d'animation de Walt Disney, Bambi. En 1947, il s'installera en Espagne où il fit ses études secondaires à Salamanque. Il commencera alors à travailler pour une compagnie théâtrale et réalisera la première mise en scène de sa carrière, soit la pièce « The Glass Menagerie » de l'auteur Tennessee Williams. En 1963, fatigué de la censure franquiste, qui refuse les pièces de théâtre qu'il propose, Serrador rejoint son père en Argentine, où il va entamer une carrière à la télévision. Il commencera à travailler pour la Televisión Española, créant et réalisant des émissions à succès en Espagne, comme la série d'horreur Historias para no dormir, l'émission spéciale Historia de la frivolidad, ainsi que le jeu télévisé Un, dos, tres, responda, Otra vez, émission qui attira l'intérêt de l'auditoire espagnol jusqu'en 2004, année de sa cancellation. En 1968, le ministère de la Marine lui demandera de réaliser un court-métrage pour un festival à Versailles, court-métrage qui remportera un prix, ce qui permettra au ministre de la Défense de le décorer de la Croix du Mérite Naval. Suite à cet événement, Serrador se tournera alors vers le cinéma, écrivant et réalisant deux longs-métrages, soit « The House That Screamed » ou « La Residencia » en 1969 et « Who Can Kill a Child » en 1976. Narciso Ibáñez Serrador recevra un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière qui lui sera décerné par l'Académie espagnole de la télévision en 2022. Il recevra également la médaille d'or du mérite des beaux-arts du ministère de la Culture cette même année, le prix National de la télévision décerné par le ministère espagnol de la Culture en 2010, le Feroz d'honneur lors de la 4e cérémonie des prix Feroz en 2017 et finalement le Goya d'honneur décerné par l'Académie espagnole du cinéma lors de la 33e cérémonie des Goyas en 2018. Malheureusement, ce sera le 7 juin 2019 que le réalisateur, scénariste et acteur nous quittera, ce dernier décédant d'une infection urinaire à l'âge de 83 ans. Donc, venez visiter la carrière cinématographique de celui qui est considéré par la communauté espagnole comme le Hitchcock de l'Espagne, alors que je vous parlerai des deux seules réalisations cinématographiques de sa carrière, soit les films d'horreur « La Residencia » sorti en salle en 1969, ainsi que le film culte « Quien puede matar et un niño » sorti en salle en 1976, ce dernier film ayant un remake intitulé « Come out and play » qui sera réalisé par le metteur en scène biélorusse Makhinov en 2012.
No, that's not big enough. No, that's not big enough either. That's more like it. We're delighted to have you with us, and we extend a cordial welcome to you. We've lined up the top stars from Hollywood and from all over the world to entertain you on our giant screen with the new, colorful motion pictures you've been hearing about and reading about. To add to your enjoyment, we're all wound up to bowl you over at intermission time with live wire service at our snack bar, where you'll find a tempting variety of favorite foods and beverages. Your continued patronage is very, very welcome.
Good evening, folks, and a hearty welcome to our drive-in theater. We have a wonderful evening's entertainment lined up for you, one that will provide several hours of pleasurable relaxation and diversion for you and your family. Did you fail to dress up for tonight's show? No tie, an old shirt and slacks, a house dress? Well, don't give it a thought. We're glad you came as you are. We just want you to enjoy yourselves. Don't forget to visit our refreshment center during the intermission or any time.
Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Delicious things to eat.
The popcorn can't be beat. The sparkling drinks are just dandy. The chocolate bars and the candy. So let's all go to the lobby to get ourselves a treat. Let's all go to the lobby to get ourselves a treat.
Jim Rex? What's Jim Rex? Would you believe a movie audience guide presented as a public service by this theater's management to help you select your motion picture entertainment? Well, that's what it is. And we urge you to learn these rating symbols and use them as a guide for you and your family. G means suggested for general audiences, all ages. M, suggested for mature audiences, parental discretion advised. R, restricted, persons under 16 not admitted unless accompanied by parent or adult guardian. X, persons under 18 will not be admitted. This seal in advertising indicates that the film was approved under the Motion Picture Code of Self-Regulation.
Settle back now, content, comfortable, well-fed, and ready for some fine entertainment. Is everybody happy? Then let's go. It's showtime.
Get more out of life. Go out to a movie.
In the house that screamed, the venomous seed of tormented desire grows to a nightmare of unspeakable horror.
I must run this establishment with a firm hand. Everything seems very strange, madame. Five girls have disappeared in less than 4 months. We've never heard from any of these girls again.
Five have died. Who will be the sixth? That screamed, rated GP.
La Residencia, ou encore La Résidence, ou connue en anglais sous le titre de The House That Screamed ou The Finishing School, est un drame d'horreur qui a été distribué en salle par les studios Regia Arturo González Rodríguez le 8 décembre 1969. Ce film espagnol est d'une durée de 104 minutes. Je n'ai malheureusement pas de budget, mais je peux vous dire que le film a amassé plus de 1,4 million de dollars en Espagne. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène espagnol Narciso Ibáñez Serrador, lui qui nous avait donné les films La Culpa, El Guion et Who Can Kill a Child. Au poste de producteur, c'est le producteur espagnol Xavier Armet, lui qui a produit un seul film dans sa carrière, soit La Residencia. Au poste de scénariste, c'est le scénariste espagnol Narciso Ibáñez Serrador, lui qui avait écrit les scénarios de Who Can Kill a Child et Luz Roja. Au niveau de la distribution, eh bien, on y retrouve les actrices Lily Palmer, Christina Galbo, Mary Maud, Mary Bell Martin, Candida Losada, Pauline Chaloner et les acteurs John Mulder Brown ainsi que Thomas Blanco. En France, au 19e siècle, une nouvelle élève est admise dans un pensionnat pour filles dirigé par une femme autoritaire dont le fils demeure également dans l'établissement caché des résidents. Suite à son arrivée, certaines des pensionnaires commencent alors à disparaître, victimes d'un mystérieux meurtrier. Né en 1941 à Madrid, le scénariste Juan Tebar écrivait divers scénarios pour la série télé Historias para no dormir, qui fut créée par le réalisateur espagnol Narciso Ibáñez Serrador. Une de ses histoires, La Residencia, sera tellement appréciée par le jeune réalisateur que ce dernier décidera finalement d'utiliser son sujet pour son tout premier long-métrage cinématographique, le réalisateur étant seulement connu à ce moment pour ses diverses réalisations et productions télévisuelles, et ce, depuis plus d'une quinzaine d'années. Dans une Espagne franquiste, encourageant la production cinématographique à condition que ses sujets politiques d'actualité soient tabous, La Residencia sera produit par Annabel Film, la société de production de l'acteur et producteur Xavier Armet. Pensé d'emblée pour une exploitation internationale avec un tournage en langue anglaise et une distribution cosmopolite, ce drame d'horreur bénéficiera à cette époque du plus gros budget alloué à une production espagnole. D'ailleurs, La Residencia sera officiellement la toute première production cinématographique espagnole diffusée entièrement en anglais et sera non seulement la toute première production cinématographique d'horreur majeure espagnole destinée au marché international, mais le film contiendra également les deux premiers meurtres explicites filmés au ralenti de l'histoire du cinéma espagnol. Après avoir terminé l'écriture de son scénario, sous le pseudonyme de Luis Penafiel, Serrador, qui bénéficiera ici d'un plein contrôle artistique sur cette production, réunira sa distribution internationale, notamment l'actrice allemande Lily Palmer, qui avait fait ses débuts en Angleterre vers le milieu des années 30, avant de quitter pour Hollywood 10 ans plus tard, l'actrice étant choisie pour interpréter le rôle ambigu et troublant de Madame Fourneau. Se joindra à elle les acteurs britanniques John Mulder Brown, qui avait fait ses débuts à Hollywood à la fin des années 1950, et Mary Maud, dont il s'agira ici du premier rôle sur le grand écran, la jeune femme ayant précédemment fait quelques apparitions à la télévision et remplaçant l'actrice Serena Vergano, précédemment choisie pour le rôle. L'actrice espagnole Christina Galbo sera choisie pour interpréter Teresa, la jeune femme innocente qui se retrouve malgré elle dans l'établissement. À ses côtés, l'on retrouvera Teresa Hurtado et Maria Gustafsson, apparaissant également dans des rôles secondaires. Toutes deux collaboreront plus tard avec Serrador dans sa série télévisée Un, Dos, Tres, Hurtado ayant également déjà travaillé avec Serrador, apparaissant en 1966 dans l'épisode El Muñeco de sa série télévisée Historias para no dormir. Une fois sa distribution choisie, le réalisateur s'attaquera alors à son équipe technique. Ce sera le distributeur de la photographie Godofredo Pacheco qui sera embauché, mais ce dernier sera remplacé peu après le début du tournage par Manuel Berenguer. Berenguer, qui avait précédemment travaillé sur des films tels que Crack in the World, King of Kings et Dr. Zivago, sera instauré l'atmosphère morbide désirée par le metteur en scène sur le plateau de tournage. Tourné en couleur sur pellicule 35 mm, le tournage aura lieu à Cosmilas, au Cantabrie, en Espagne. Les extérieurs seront tournés dans le palais Sombrellano à Comilas, alors que d'autres séquences, celles-ci intérieures, seront tournées dans le studio Estudios Moro à Madrid, toujours en Espagne. Réunissant des acteurs anglais et espagnols, La Residencia fut tournée avec des dialogues en anglais et en espagnol. Une fois en post-production, un doublage anglais sera effectué intégralement pour les dialogues espagnols. Lors de sa réalisation en 1969, l'Espagne était encore sous la dictature répressive du régime de Francisco Franco et la censure y était très stricte, interdisant plus ou moins les films d'horreur à cette époque. Cela forcera le réalisateur-scénariste à utiliser tous les trucs possibles afin de contourner les lois, trucs qu'il avait appris lors de sa brillante carrière à la télévision. Et donc, Serrador utilisera énormément de sous-entendus et fera preuve d'une grande ingéniosité afin d'éviter la nudité, notamment dans une scène mémorable où toutes les jeunes femmes prennent leur douche en chemise de nuit. Le chef décorateur Ramiro Gomez, qui travaillait dans le domaine cinématographique depuis la fin des années 1940, aura la lourde tâche de transformer le pensionnat en une merveille de décors gothiques victoriennes avec une architecture et un mobilier renvoyant à l'époque du 19e siècle. Ce sera le costumier Victor Cortezo, qui avait travaillé sur plusieurs films d'époque depuis la fin des années 40, qui sera responsable d'habiller les différents personnages du long métrage. Le tournage sera beaucoup plus long que ceux des films espagnols de cette époque, dû principalement à son budget plus élevé. Une fois ce dernier terminé, ce sera l'actrice et technicienne Mercedes Alonso qui s'occupera du montage final, celle-ci étant assistée de Reginald Mills. Aidant le réalisateur à montrer avec justesse les sentiments féminins de ses différents personnages, Alonso aura carte blanche afin de montrer la violence physique et psychologique de l'histoire d'une façon quasi poétique. Alonso travaillera dans le milieu du cinéma durant presque une cinquantaine d'années et sera responsable du montage final de films tels que L'Ombra di Zorro et Obsession. Afin de l'assister dans la qualité visuelle de son montage, Alonso obtiendra l'aide de la musique composée par Waldo de los Ríos, auteur et compositeur argentin qui avait déjà collaboré avec Ibanez Serrador sur sa télésérie Historias para no dormir et qui travaillera de nouveau avec le réalisateur sur son film suivant, soit Quien puede matar et un niño en 1976. Le drame d'horreur sortira en salle en Espagne le 8 décembre 1969 et connaîtra un grand succès commercial, attirant tout près de 3 millions de spectateurs. Il deviendra le film le plus rentable en Espagne à l'époque, rapportant tout près de 640 000 $ au cours de ses 6 premiers mois et plus du double avant sa sortie des salles de cinéma. En 1971, la maison de distribution American International Pictures fera l'acquisition des droits de distribution aux États-Unis, où le long-métrage sortira sous le titre alternatif de « The House That Screamed ». Afin d'éviter une classification X par la Motion Picture Association, soit un film interdit aux moins de 18 ans non accompagné d'adultes, le film de 104 minutes se verra coupé de plus d'une dizaine de minutes afin de finalement obtenir un classement GP, soit pour tout public. Sa première nord-américaine aura lieu le 16 mars 1971 à Tucson, en Arizona, avant d'être diffusée dans d'autres villes américaines au cours du même mois. Le réalisateur Narciso Ibanez Serrador n'appréciera guère la manière dont le film sera promis aux États-Unis, ce qui, d'après lui, fera en sorte que son long métrage n'obtiendra pas le succès auprès du public américain contemporain. Une troisième version de La Residencia existe également sous le titre de The Finishing School, version de 99 minutes qui sera alors diffusée dans d'autres pays du monde, dont l'Australie. La Residencia remportera le prix du meilleur film décerné par le Syndicat national du divertissement, alors que Serrador recevra le prix du meilleur réalisateur décerné par le Cercle des écrivains de cinéma. Quant aux jeunes actrices Cristina Galbo, Maribel Martin, Mary Maud, Maria Elena Harpon, Anna Maria Paul et certaines des autres femmes apparaissant dans ce long métrage deviendront par la suite des Scream Queens du cinéma d'horreur espagnol ou européen. L'importance de ce film d'épouvante espagnol de la fin des années 60 sera tellement importante dans l'histoire du cinéma qu'il inspirera un grand nombre de films d'horreur et de slashers ultérieurs tels que Suspiria du réalisateur italien Dario Argento et Pieces du réalisateur Juan Piquer Simón. Quant aux gens qui travailleront sur ce classique, le directeur de la photographie Manuel Berenguer décédera le 20 décembre 1999 en Espagne. Il était âgé de 86 ans. Quant au décorateur et chef décorateur Ramiro Gomez, connu pour son travail sur Last Days of Pompeii en 1959, ce dernier décédera en Espagne le 9 juin 2003, à l'âge de 87 ans. Le costumier et chef décorateur Victor Maria Cortezo décédera en 1978 à l'âge de 70 ans en Espagne, alors que l'actrice et monteuse Mercedes Alonso, elle, décédera à Madrid le 18 mars 2013 à l'âge de 99 ans. Finalement, l'actrice Lily Palmer perdra la vie à Los Angeles le 27 janvier 1986 des suites d'un cancer abdominal. Elle était âgée de 71 ans. Du côté des points forts, eh bien, La Residencia n'est pas sans nous rappeler les excellents films de la Hammer Film avec cette ambiance morbide, palpable et surtout ce visuel très victorien. La mise en scène est beaucoup plus mature et soignée face à ce que l'on est habitué de voir durant cette période de l'histoire du cinéma, notamment provenant de l'Espagne. Ibanez Serrador a su s'entourer d'une équipe technique de qualité qui nous donne ici un spectacle qui est visuellement très élégant et également un produit haut en émotion grâce à une excellente distribution avec comme façade une interprétation des plus dérangeantes de l'actrice Lily Palmer. Ibanez Serrador joue énormément avec le subtil et le sous-entendu, prônant la sensualité féminine subjective, frôlant le lesbianisme ou encore à un certain moment l'inceste, ce qui est certain de rendre le spectateur quelque peu inconfortable. D'ailleurs, c'est vraiment l'horreur psychologique qui est la force ici, la cruauté entre les différents personnages féminins étant le véritable ennemi de nos héroïnes ici. À souligner, le premier meurtre du film est presque poétique, le réalisateur, sa monteuse et son compositeur musical nous offrant ici probablement l'une des plus belles séquences de cette période du cinéma, sans oublier la conclusion qui sera laissée bouche bée le spectateur. Au niveau musical, la musique de Waldo de los Rios est hypnotisante, jouant tant au niveau de la beauté que de l'horreur, et supportant de façon magistrale les moments de haute tension du long métrage. Mais du côté des points faibles, eh bien, ceux qui s'attendent ici à un slasher sanglant seront véritablement déçus, le réalisateur jouant la carte du suggestif plutôt que des scènes sanglantes. Les séquences de suspense arrivent trop tôt dans le film et sont plutôt artificielles. Le réalisateur aurait pu attendre avant de commencer à mettre en garde son spectateur et ainsi plutôt s'attarder à la mise en place de ses différents personnages et des lieux où se dérouleront les événements sinistres de son film. À cause du fait que ce film s'attarde beaucoup plus à l'aspect psychologique de son sujet, le film souffre malheureusement de quelques longueurs qui auraient pu être évitées. Il semble manquer une séquence importante vers le milieu du film. Il s'agit de ce moment où Louis est libéré de la chaudière où il s'est accidentellement enfermé par Teresa et comment les deux sont devenus amis. C'est dommage car Louis semble devenir ami avec plusieurs filles du pensionnat, mais on ne se concentre jamais sur ses relations, ce qui est une perte ici à mon point de vue. Par moments, on a l'impression que le scénario manque de focus, allant dans plusieurs directions différentes afin de détourner l'attention du spectateur du véritable problème, mais surtout du véritable meurtrier. Du côté des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film La Residencia 5. J'y vais également avec une cote 5. Au niveau de l'âge et du contenu, le film est coté 13 ans indicatif. J'y vais également avec un 14 ans pour un contenu mature et quelques séquences de violence, mais celles-ci sont très légères.
Projectionist, stop the show. Here's great news you ought to know. We've just got a shipment of Taste Thrill Treats, all tip-top quality and delicious eats. There are hot dogs and popcorn and candy galore. There are soft drinks and coffee and a whole lot more. So direct your steps to our refreshment stand to enjoy the finest snacks in all the land. Intermission time. Time that stretch you've been wanting. And best of all, time to take your pick from that scrumptious array of tasty treats waiting for you at the snack bar. where the popcorn's poppin', the cold drinks are sparkling, the hot dogs are sling, the coffee is steaming, and a luscious treasure of confectionery delights with ice cream and candy, and so much more to tempt any taste, is waiting for you now at the snack bar. You'll be notified in plenty of time when the next show is about to begin.
What do you think?
It's not very crowded. This is weird. Looks like they just up and left. Do you know where everybody is?
Hello, hello, hello.
We have to get out of here. Now.
Come on!
Fue ayer en la noche.
All the kids woke up. They're laughing and shouting. And then they all started running into the houses. And attacking all the adults.
Silvio, Silvio.
But they ate. This kind of action's the main attraction. Oh boy, ain't love grand. He's buying lots of goodies, ice cream, Pepsi, and peanuts too. Living on love's not easy. You need your strength to woo. Now he returns. What's this she yearns? Refreshing Pepsi, a kiss he earns. Romance and pleasure, and for good measure, thirst-quenching Pepsi for those who think young.
We hope you're enjoying your visit here this evening. Now, on with the show.
Rated X.
It's exactly as it was 12 years ago.
Do they always leave a village as deserted as this?
Buenos dias!
Looks as if they left in rather a hurry.
Hello? It sounded like a child's voice.
Trying to keep it from me.
Puede matar a un niño ou encore Les Révoltés de l'an 2000, est un film qui est également connu sous plusieurs titres en version anglaise, soit bien sûr le principal qui est Who Can Kill a Child, mais il est connu également sous les titres de Island of the Damned, Would You Kill a Child, Island of Death, Death is Child's Play et Children of the Corn Tortilla. Ce drame d'horreur a été distribué en salle par les studios American International Pictures le 26 avril 1976. Ce film espagnol est d'une durée de 112 minutes. Je n'ai malheureusement pas le box-office ni le budget de cette production espagnole. Au poste de réalisateur, on y retrouve le metteur en scène espagnol Narciso Ibáñez Serrador, lui qui nous avait donné les films La Culpa, El Regreso et La Zarpa. Du côté de la production, c'est le producteur espagnol Manuel Salvador qui nous avait donné les films Los Poetas et Semos Peligrosos qui s'est occupé de la production ici, alors que Narciso Ibáñez Serrador a également écrit le scénario, lui qui avait écrit le scénario du film The House That Screamed ou La Residencia et Blame. Au niveau de la distribution, on y retrouve les acteurs Lewis Fiender, Prunella Ransom, Antonio Iranzo, Marisa Porcel, Luis Siges, Fabian Conde et Miguel Naros. Un jeune couple qui s'en va passer des vacances en Espagne sur une petite île au large de la côte constate que les adultes d'un petit village ont été massacrés par leurs enfants qui semblent alors soumis à une force mystérieuse. L'auteur Juan José Plans Martínez est né à Gijón le 28 février 1943. Après avoir débuté l'écriture en écrivant des articles pour la presse avec des collaborations aux commerciaux de Gijón et dans la presse provinciale d'Oviedo, il quittera pour Madrid et commencera à travailler à la Radio Nationale d'Espagne. Il sera par la suite rédacteur en chef de La Estafeta Literaria et deviendra également conseiller éditorial d'El Basilisco et Nickel Odeon. En 1972, il remportera le National Theatre Award ainsi que le National Radio Script Award pour son roman radio « Ventanal Futuro ». Artiste polyvalent, presque indissociable du milieu radiophonique, le journaliste, animateur et écrivain publiera en 1976 via la maison d'édition Organización Sala Editorial l'un des meilleurs romans d'horreur écrits en espagnol, soit le livre de 183 pages El Juego de los Niños. Alors âgé de 40 ans, le réalisateur Narciso Ibáñez Serrador rencontrera le romancier Juan José Plans qui lui racontera l'intrigue de son livre. Inspiré par l'histoire et cherchant depuis un certain temps une idée liée aux côtes obscures de l'enfance, Serrador planchera alors sur un scénario qu'il complétera en seulement 4 jours sous son pseudonyme habituel de Luis Penafiel. Le script de Serrador sera bien différent du livre de José Plan, bien que l'histoire, elle, demeurera assez fidèle. Dans le livre, une poudre jaune s'abat sur un village et pousse les enfants à se retourner contre les adultes. Serrador trouva cette idée farfelue et décidera de ne pas donner d'explication sur les mobiles de ses enfants tueurs. Après avoir pris une entente avec la compagnie de production Penta Films pour le financement du long-métrage, Serrador s'occupera alors de sa distribution. À l'origine, le réalisateur espagnol cherchera à mettre la main sur l'acteur Anthony Hopkins pour le rôle de Tom, mais, en raison d'engagements antérieurs, Hopkins dut refuser l'offre. Ce sera finalement l'acteur australien Lewis Fiender qui obtiendra le rôle, ce dernier ayant été vu dans plusieurs autres films d'horreur, dont Dr. Jekyll et Sister Hyde en 1971 et The Doctor and the Devils en 1985. Dans le rôle d'Evelyn, il choisira l'actrice anglaise Prunella Ransom, une jeune femme déjà aperçue dans des films tels que Far From the Madding Crowd en 1967 et Men in the Wilderness en 1971, mais qui a fait l'essentiel de sa carrière à la télévision britannique. Au niveau de la direction photo, le réalisateur espagnol désirait depuis longtemps travailler avec le très distingué José Luis Arcalín, un homme qui avait près de 200 longs métrages d'expérience derrière lui, dont plusieurs avec le réalisateur américain Brian De Palma. Ayant débuté sa carrière à la fin des années 60, le directeur de la photographie aura la lourde tâche d'éclairer un film d'horreur dont l'action se situe en plein jour, l'homme s'inspirant alors de films tels que The Birds d'Alfred Hitchcock et Night of the Living Dead de George A. Romero. Finalement, Serrador embauchera le caméraman Ricardo Navarrete, qui avait alors la responsabilité d'effectuer beaucoup de plans d'épaule et de zooms sous-mentionnés sans que cela ne devienne dérangeant pour le spectateur. Ce sera donc en 1975 que débutera le tournage de ce drame d'horreur, tournage qui dura plus de 9 semaines sous un soleil de plomb, pratiquement sans aucune scène de nuit. Bien que le film se déroule dans une ville insulaire et que plusieurs lieux côtiers comme Almuñécar à Grenade, Minorque dans les îles Baléares, Sitges à Barcelone ainsi que Madrid aient été utilisés pour le tournage, pratiquement toutes les scènes de la ville fictive d'Almanzora furent filmées sur l'île de Cirugueros à Tolède, île qui était située à environ 250 km de la mer et qui était habitée par plus de 300 personnes. Durant la production, le réalisateur sera insatisfait de l'interprétation de l'acteur Lewis Fiender, mais sera impressionné par celui de l'actrice Prunella Ransom. Serrador fera un caméo dans son long-métrage, interprétant le rôle d'un homme se trouvant près d'un bus à qui Tom pose des questions en rapport avec la fête se déroulant dans la ville espagnole. Pour la séquence dans laquelle les enfants utilisent un cadavre comme piñata, les plans avec les enfants seront filmés séparément en remplaçant l'acteur qui joue le cadavre par un punching ball. Durant plus de 9 semaines, le tournage se déroulera sans histoire et une fois celui-ci terminé, le réalisateur s'attaquera au montage et à sa post-production. C'est à ce moment que seront ajoutés la majorité des bruits de fond, incluant celui des mouettes et de la mer lointaine. Dès son concept d'origine, Ibanez Serrador désirait que tous les dialogues du couple principal soient tournés en anglais, car le personnage d'Evelyn, ne parlant pas vraiment espagnol, ne savait pas vraiment ce qui se passait, son mari Tom étant le seul qui savait parler espagnol. Cependant, alors que le film était encore en post-production, les producteurs décideront à la dernière minute de doubler les voix de Ransom et Fiender en espagnol, car ils craignaient que le public ne soit distrait par les sous-titres. Le réalisateur exprimera son désaccord, estimant que cela nuirait à l'atmosphère du film. Malheureusement pour lui, lorsque le film sortira en Espagne, la copie sera traduite. Cependant, le film gardera sa trame sonore originale lors de sa sortie au niveau international. La partition musicale sera composée ici par Waldo de los Ríos, qui intégrera diverses tendances musicales cinématographiques des années 70. Il s'agira ici du dernier travail du compositeur argentin qui se suicidera le 28 mars 1977 à l'âge de 43 ans à Madrid, l'homme souffrant alors de dépression. Le film d'horreur sortira en salle en 1976 et obtiendra de bons revenus au box-office, mais n'atteindra pas les sommets de la Residencia en 1969. Cependant, le long-métrage obtiendra une reconnaissance internationale, bien qu'il ait été interdit dans plusieurs pays en raison de son contenu controversé, notamment en Finlande et en Islande. Le film subira également une certaine censure en Argentine, en Australie, en France, en Suède et aux États-Unis. Malgré cela, le drame d'horreur remportera le prix de la critique au Festival du film fantastique d'Avoriaz en 1977. « Who Can Kill a Child » tombera cependant vite dans l'oubli, mais deviendra, au fil des années, un film culte, principalement grâce à une sortie en vidéo et à sa présentation à l'intérieur de divers festivals durant les années qui suivirent. Serrador sera également accusé d'être fasciste à cause de sa séquence d'introduction du film, dans lequel il montre aux spectateurs, et ce dès les premières minutes, les conséquences que subissent de nombreux enfants dans les conflits de guerre et les crimes commis contre eux par l'humanité, et ce, à travers des documents d'archives en noir et blanc et des images réelles très crues. Avec le temps, Serrador regrettera sa décision d'avoir placé ces images à l'intérieur de son générique du début du film et non à la fin où, d'après lui, le message aurait peut-être été mieux véhiculé sur les raisons de la révolte des enfants dans son film. En 1999, l'écrivain Johann Jose Plans réalisera une version radiophonique de son roman qu'il réalisera et présentera lui-même sur le poste de radio Nacional de España. Intitulée « Historias », cette adaptation radiophonique sera diffusée en 6 épisodes d'une heure et deviendra l'une des séries d'émissions les plus diffusées de ce programme. En 2007, un réalisateur biélorusse du nom de Makinov décidera d'écrire, produire et réaliser un remake de « Quién puede Matar et Un Niño. Makhinov était un réalisateur masqué qui débuta sa carrière en Russie en tant que membre de l'équipe de tournage chargée de garantir la mise au point des divers plans. Il se rendra par la suite au Mexique afin d'étudier le monde du cinéma où il tournera deux documentaires. Après avoir frôlé la mort suite à un accident, le mystérieux réalisateur adoptera une nouvelle identité et commencera à se désigner uniquement sous le nom de Makhinov, l'homme portant continuellement une cagoule sur la tête afin de cacher sa véritable identité. Le réalisateur approchera alors le président de la compagnie de production Canada, Pablo Cruz, afin que ce dernier finance ce qui deviendrait le tout premier film officiel de sa carrière. S'entendant pour un montant avoisinant le 1 million de dollars, Makhinov débutera alors son travail de scénarisation d'un projet intitulé « Come Out and Play ». Une fois le scénario terminé, ce dernier sera alors envoyé avec les demandes du mystérieux réalisateur au propriétaire de la compagnie Canada qui débutera alors la recherche des divers comédiens pour le long-métrage. Ce sera l'actrice Vanessa Shaw que l'on avait pu voir dans le remake de 2006 « The Hills Have Eyes » qui obtiendra le rôle principal de Beth alors que l'acteur Ebon Moss Backrack sera approché pour le rôle de Francis. Moss Backrack, qui vivait à New York, ne sera pas vraiment enthousiaste par le scénario de Come Out and Play, mais sera alors convaincu par Cruz d'aller au Mexique rencontrer le réalisateur. Ce sera donc à la fin de l'automne 2011 que Moss Backrack se retrouvera dans un avion en direction d'Olbos pour y rencontrer le nouveau réalisateur, ce dernier portant justement un masque et prévenant le comédien qu'il ne montrerait jamais son visage. Cette situation inhabituelle ne dissuadera pas Moss Backrack de participer au projet et, avec ses deux acteurs principaux signés, Makhinov débutera sa réalisation. Le tournage durera plus de 3 semaines et se fera sur l'île d'Olbox dans l'État de Quintana Roo, au Mexique. Durant ces 3 semaines, le réalisateur, qui portera continuellement son masque sur le plateau de tournage, s'occupera de la réalisation photo ainsi que de sa caméra, tout en donnant ses conseils à ses comédiens à travers une radio et en se servant d'un traducteur pour passer ses remarques. D'ailleurs, il n'y avait personne sur le plateau de tournage pour mettre de l'ordre et dire aux gens quoi faire, à l'exception d'un radiotransmetteur à travers duquel l'homme exprimait ses demandes. Une fois le tournage terminé, Makhinov s'occupera lui-même de la post-production qui dura plus de 6 mois. C'est durant cette période de temps que Makhinov s'occupera également de composer lui-même sa partition musicale pour son film, l'homme devenant alors pratiquement un one-man show sur sa production. Le film aura sa grande première au Festival international du film de Toronto en septembre 2012, avant d'être présenté dans différents festivals de films aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne ainsi qu'en Italie. Avant la projection de son film au Festival international du film de Toronto, un court-métrage sous-titré de Makhinov sera présenté à l'auditoire dans lequel le réalisateur, portant une cagoule rouge rudimentaire, brisera un téléphone portable puis commencera à déclarer en russe les raisons de la réalisation de ce film d'horreur. Un autre vidéo sera produit et présenté avant la diffusion de son film au AFI Fest de Los Angeles en novembre 2012. Come Out and Play aura une courte sortie en salle dans les cinémas américains le 22 mars 2013 et n'amassera que 2 638 $ au box-office. Pour Quien puede matar et un niño, le long-métrage d'horreur deviendra avec le temps un film culte et est maintenant considéré dans le milieu du cinéma comme l'un des grands films d'horreur de sa génération. D'ailleurs, le film obtiendra la 86e place dans la liste des 100 meilleurs films d'horreur de tous les temps de la revue Slant Magazine. L'actrice Prunella Jane Ransom décédera à l'âge de 59 ans d'un cancer de l'œsophage à l'hôpital de Norfolk le vendredi 4 mars 2002. Ransom sera incinérée au crématorium Durham. Cependant, ses cendres n'y seront pas déposées, mais seront transportées par le directeur des pompes funèbres de Norwich, en Angleterre, pour un enterrement privé à Norfolk. L'auteur Juan José Plan Martinez décédera des suites d'un anévrisme à Ibidem le 24 février 2014 à l'âge de 71 ans. Martinez avait écrit tout près de 40 livres dans sa carrière, en plus d'être reconnu comme journaliste, scénariste et animateur de radio et de télévision espagnole. Quant à l'acteur Lewis Ernest Fiender, ce dernier décédera des suites d'un accident vasculaire cérébral le 24 mai 2016 à Melbourne, en Australie. L'homme était alors âgé de 78 ans. Décédé en juin 2019 à l'âge de 83 ans, Narciso Ibáñez Serrador ne tournera que deux longs-métrages cinématographiques dans sa carrière, mais fut un icône de la télévision espagnole, devenant une sorte de Hitchcock Ibert et barbu. Il inspira une jeune génération de réalisateurs de films fantastiques espagnols, notamment Jaume Balagueró, Juan Antonio Bayona, Paco Plaza et également Guillermo del Toro. Du côté des points forts, eh bien, la réalisation ici de Narciso Ibáñez Serrador est extrêmement intelligente, mélangeant le style reportage à un style très naturel qui crée ici un effet de réalisme dans l'histoire qui permet au spectateur d'être entraîné malgré lui dans ce conte horrifiant. D'ailleurs, le scénario est extrêmement bien travaillé, ne laissant rien au hasard, en passant toute l'information qu'il doit donner au spectateur de façon subtile, celui-ci ne prenant jamais le spectateur pour un idiot. De plus, le réalisateur prend le temps de placer son histoire et trouve une façon ingénieuse de nous intéresser à l'action de ses personnages, même dans une introduction où il ne se passe pas grand-chose, mais qui demeure tout de même fortement intrigante. Au niveau de la distribution, cette dernière est très naturelle, tout spécialement les enfants, qui restent tout de même des êtres naïfs qui ne pensent qu'à s'amuser malgré les atrocités qu'ils commettent. Le réalisateur nous montre ici un tour de force avec sa direction des enfants, ces derniers étant attachants malgré les horreurs qu'ils commettent. D'ailleurs, c'est justement la beauté de la naïveté de ces enfants qui rend l'horreur plus réelle et encore plus dérangeante. De plus, le metteur en scène se permet de briser ici toutes les règles du film d'horreur traditionnel en faisant en sorte que toute son action se passe dans la lumière et jamais dans la noirceur, ce qui est la principale force de ce film d'horreur. De plus, son contrôle du cadrage et du montage fait monter le suspense sans même que le spectateur ne s'en rende compte, ce dernier étant alors pris totalement en otage par l'histoire. Au final, Ibáñez Serrador a pris ici le temps de donner de bonnes excuses à ses deux personnages principaux de ne pas quitter rapidement l'île et nous donne ici une histoire qui se passe presque en temps réel pour la partie centrale de son film. La violence ici est suggérée d'une façon très efficace et l'attraction du long-métrage est montée d'une main de maître, tenant en haleine le spectateur, surtout dans les moments plus tranquilles du film, ce qui permet de conserver une certaine ambiance de stress tout au long du long-métrage, le tout accompagné d'une superbe trame sonore du musicien Waldo de los Ríos. Au final, un film d'horreur qui a très bien vieilli et qui se laisse encore très bien écouter aujourd'hui, sans aucune difficulté. Mais du côté des points faibles, eh bien, la partie la plus faible de son long métrage est sans contredit l'introduction du film qui est d'une durée de 8 minutes, qui semblera interminable pour plusieurs et qui nous présente des atrocités de la guerre dont les enfants sont les principales victimes. Si ces images sont trop dures pour vous, sautez le générique d'introduction et continuez le film. Faites-moi confiance, vous ne le regretterez pas. Ces images dures, mais nécessaires, nous permettent d'une certaine façon de comprendre les raisons derrière la révolte des enfants ici, mais n'est point nécessaire à l'histoire. De plus, le film prend plus d'une trentaine de minutes avant de se retrouver sur l'île et cela pourrait paraître ennuyeux pour ceux qui aiment que l'action bouge beaucoup plus. Cependant, il y a toujours de quoi, soit au niveau visuel ou auditif, qui est important à l'histoire et c'est cette introduction lente qui fait que l'on s'attache à nos deux personnages principaux. Une autre faiblesse de l'histoire ici est le fait que Tom abandonne à plusieurs reprises Ivy alors qu'il est totalement conscient du danger, ce qui manque un peu de crédibilité, surtout dû au fait que cette dernière soit enceinte. Au final, certaines personnes pourraient être déçues par le fait qu'en aucun moment les raisons derrière cette folie meurtrière des enfants ne soient expliquées. Au niveau des cotes artistiques, eh bien, Mediafilm a coté le film 4. Moi, j'y vais avec une cote 2. D'ailleurs, Who Can Kill a Child fait partie de mon top 3 des meilleurs films d'horreur de tous les temps. Donc, c'est la raison pour laquelle je le cote 2. Au niveau de l'âge et du contenu, eh bien, le film est coté 13 ans indicatif par la régie du cinéma. Moi, j'y vais avec un 14 ans, mais je vous dirais même qu'à cause de l'introduction, j'irais peut-être à 18 ans. Cependant, une fois que l'introduction est passée, l'âge de 14 ans est vraiment recommandé parce que c'est un film qui contient une violence qui est quand même assez légère. Du côté du film Come Out and Play, eh bien, du côté des points forts, la distribution est tout de même intéressante ici. Les acteurs cherchant du mieux qu'ils peuvent à nous donner une interprétation tout ce qu'il y a de plus naturel. En fait, les deux comédiens font du mieux qu'ils peuvent avec le scénario et la pauvre direction qu'ils ont obtenue lors du tournage. Dans le film original, le lien entre les enfants se fait de façon télépathique. Ici, le réalisateur décide de nous montrer que les enfants ont besoin de se toucher entre eux pour devenir des êtres meurtriers, ce qui est une sorte d'explication plus grossière qui nous est donnée pour expliquer le transfert de cette folie meurtrière, mais qui saura plaire à cet auditoire qui désire avoir réponse à tout. Le réalisateur Makinoff prend également le temps de montrer que notre héros envoie un message SOS par la radio, et ça, ça va expliquer les raisons pour lesquelles la police va se rendre sur l'île à la fin du film, ce qui n'était pas vraiment expliqué dans le film original de 1976. Mais du côté des points faibles, eh bien, Come Out and Play est une copie carbone du film Who Can Kill a Child, sans vie, qui est plus un exercice de style mal fait de son metteur en scène qu'un remake nécessaire avec un message différent ou du moins plus à jour que l'original de 1976. Le scénario est totalement vide, la réalisation est extrêmement faible, le choix de jeu de caméra et de cadrage du réalisateur ne donnant vraiment jamais la chance au spectateur de se prendre d'affection pour nos deux personnages principaux, le personnage masculin étant en plus de ça totalement antipathique. Le réalisateur décide d'utiliser une caméra à l'épaule dans la majeure partie du film afin de donner un aspect plus réaliste à l'action. Mais ce que ça fait au final, c'est une série d'images qui se regardent mal et qui donne plus ici un effet de frustration au spectateur qui aimerait bien voir ce qui se passe. D'ailleurs, le metteur en scène n'est jamais vraiment capable d'instaurer un véritable suspense, notamment à cause de ses personnages, de son cadrage, mais surtout à cause d'une trame son qui n'a aucune âme et qui est par moments beaucoup trop forte, ce qui déconcentre le spectateur de l'action. Mais l'aspect que je trouve dommage ici, c'est que le réalisateur transforme les enfants en de véritables psychopathes meurtriers sans aucune joie de vivre, qui démembrent leurs victimes et gardent des morceaux de ceux-ci comme souvenir, ce qui est pour moi ici totalement déplacé. Au niveau de la cote artistique de Mediafilm, eh bien ce film n'a aucune cote. Moi, je le cote 6. Je trouve que c'est une version très faible du film original de 1976. Au niveau de l'âge et du contenu, la régie du cinéma n'a pas donné de cote non plus. Moi, j'y vais avec une cote 18 ans. Je pense que de voir des enfants arracher des membres ou encore s'amuser avec des membres, ce n'est pas quelque chose qui est très intéressant pour un public un peu plus jeune. Maintenant, du côté de la sortie vidéo, eh bien, pour le film La Residencia, ce film est disponible uniquement en format Blu-ray disc sous le titre The House That Screamed. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de version française de ce film dans le format vidéo. The House That Screamed est également disponible en DVD, mais ça va être beaucoup plus difficile à trouver puisque c'est une des toutes premières éditions qui avait été réalisée à l'époque. Du côté du film Who Can Kill a Child, vous avez le DVD et le Blu-ray en français sous le titre Les Révoltés de l'an 2000. Sinon, eh bien, vous avez bien sûr le film en DVD et en Blu-ray en anglais et en espagnol. Donc, ça, c'est quelque chose qui se trouve sur le marché. De plus, dans une version qui est importée de l'Espagne, il vous est possible de trouver un Blu-ray disc two-pack qui inclut les deux films de Ibanez Serrador, c'est-à-dire La Residencia et Who Can Kill a Child. Donc, bien sûr, ce Blu-ray comprend les films en langue anglaise et espagnole seulement, mais c'est quand même la façon pour vous la plus directe d'avoir les deux films sur le même coffret. Sinon, il vous faudra acheter les coffrets séparés. Pour le film Come Out and Play, eh bien celui-ci est disponible en DVD et en Blu-ray, en anglais et en espagnol. Malheureusement, il n'existe aucune version française disponible sur le marché.
Now just 1 minute away from the beginning of our next feature. For your convenience, our refreshment stand will remain open after the feature begins, so you still have time to add to the fun of watching the movie. Before we begin our next feature, we'd like to remind you to replace your speaker before leaving the theater. If it is accidentally damaged, please notify someone at the refreshment stand. Again, thank you for coming out to the drive-in tonight. As you leave, please drive carefully and come back soon.
Attention, please. A $50 reward will be paid for information leading to the arrest and conviction of anyone caught stealing our speakers. If you accidentally pull a speaker loose, don't worry. Just turn it in. There is no charge, and we'd appreciate it.
Ladies and gentlemen, our next attraction.
Coming soon to a theater near you.
Roper, Williams, and Lee, the Deadly Three, penetrate the secret chambers of an evil island empire.
What do you know about Han?
He lives like a king on that island, totally self-sufficient.
A fortress without walls, protected by an invincible army that needs no ordinary weapons. This is Enter the Dragon, the first martial arts film produced by a major Hollywood studio. John Saxon is Roper. He was in it for the money. U.S. karate champion Jim Kelly as Williams. He was there because he had no choice. Black Belt Hall of Fame, undisputed martial arts champion and international film star Bruce Lee. His job was to get them out alive.
I'm hoping you'll join us, represent us in the United States.
You want me to join this?
Roper, Williams, and Lee. Just when they think they've broken the secret of the island, they find there is no escape from the inscrutable Han. Warner Brothers presents Enter the Dragon, where the world's greatest martial arts athletes meet the ultimate challenge with the most ancient and deadly of weapons, the human body. Enter the Dragon, from Warner Brothers.
Suddenly, I heard a tapping, as of someone gently rapping. Rapping at my chamber door.
Piss off! We're closed!
Tell the rest of them that death is coming for them. Tonight.
People once believed that when someone dies, a crow carries their soul to the land of the dead. But sometimes, the crow can bring that soul back to put the wrong things right.
Et Et c'est ainsi que se termine notre émission d'aujourd'hui. Si vous désirez en savoir plus sur ce podcast, je vous invite à vous rendre sur la page web de fantasticaradioweb.com, Fantastica avec un K, sur laquelle vous verrez apparaître une section podcast dans le haut de la page. En appuyant sur ce lien, il apparaîtra plusieurs sous-sections, dont une associée à Programme Double, endroit où vous trouverez tous les liens reliés à cette émission, soit pour l'application web qui vous permettra d'avoir un accès direct aux précédentes émissions réalisées jusqu'à présent, ainsi que les autres liens, soit pour écouter ou télécharger ces dites émissions. De plus, vous y trouverez une icône pour m'envoyer un email afin de me remettre vos commentaires ou encore des suggestions de longs métrages dont vous aimeriez que je parle à l'émission. C'est à cet endroit que vous y trouverez également les explications aux différentes cotes que je donne aux différents sujets que j'aborde, que ce soit les cotes artistiques ou encore sur le classement au niveau de l'âge de visionnement. Finalement, je vous suggère également de vous abonner à la page Facebook de Programme Double afin de demeurer averti de la diffusion des nouvelles émissions à venir. De plus, il vous est également possible d'écouter mon autre podcast, Fantastica, une émission style radio où je parle avec mon co-animateur des diverses passions qui existent dans notre quotidien et qui est également diffusée une fois ou deux semaines. Je vous remercie donc de votre écoute et on se dit à la prochaine édition de Programme Double.
And now, folks, it's time to say goodnight. We sincerely appreciate your patronage and hope we've succeeded in bringing you an enjoyable evening of entertainment. Please drive home carefully and come back again soon. Good night. As you leave the theater, folks, please be careful. Don't let this happen to your car. Be sure to remove the speaker before you leave. If you should accidentally pull a speaker loose, please turn it in at our snack bar or box office. Thank you.